C'est donc parti pour sport matin dimanche en ce 19 décembre. Bonjour, rebonjour Jean.
Bonjour Patrice.
Au menu de ce sport matin dimanche du football, bien entendu, avec les premiers résultats de ce week-end. Xavier Benoît, l'entraîneur du FCB, sera dans quelques minutes avec nous en direct après le déplacement du club à Libourne. Olivier Cousseau, le coach de Nueil-les-Aubiers, sera également avec nous puisque les Bocains étaient en déplacement également hier soir du côté de Guéret. Nous parlerons également de basket avec un Cholet qui s'enfonce de plus en plus, de handball également au programme, du volley, du rugby, de la course à pied avec hier après-midi la 33e corrida de Courlay, et ce dimanche le sud de Sèvres renoue avec le cross-country. Dans un peu plus d'une heure sera en effet donné le départ de la première course du cross de bord à Échiré. Cédric Fuseau, entraîneur de Pouzauges, mais aussi responsable de l'école des sports du Bocage Bressuré, sera notre invité fil rouge dans ce sport matin dimanche. Quant à la météo, le ciel est nuageux ce matin avec des températures à peine positives. Les nuages seront dominateurs aujourd'hui. Seul l'extrême sud-ouest des Deux-Sèvres pourra espérer une petite éclaircie dans l'après-midi. L'atmosphère restera froide aujourd'hui avec des maximales qui n'excéderont pas 3 voire 4 degrés pour les plus chanceux, si l'on peut dire.
Sport matin dimanche avec Serrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Et on commence, Jean, par le football.
Et par la Coupe de France qui en est au 32e de finale. Un petit point sur Patrice, sur les principaux résultats d'hier soir. Et après les malheureux incidents, et toujours regrettables, du match entre le FC Paris et l'Olympique Lyonnais de vendredi soir, notons les qualifications de Strasbourg, de Bastia, qui avait éliminé récemment les Herbiers, de Nancy, l'équipe de L2 qui élimine l'équipe de L1 de Troyes, de Toulouse, de Nantes qui s'impose au pénalty à Sochaux, tandis que Lille qui s'est défait d'Auxerre et Rennes qui a battu Lorient 1-0 se sont qualifiés également pour les 16e de finale. Dans l'après-midi et dans la région, nous suivrons les matchs de Cholet qui reçoit Nice, donc un enjeu important pour les voisins choletais. La Roche-sur-Yon se déplace à Montauban et peut envisager de se retrouver en 16e de finale. À suivre également les clubs du Poitou-Charentes avec Chauvigny qui reçoit Chartres, et puis Poitiers qui accueillera Lens, à suivre d'ailleurs sur France 3, cet après-midi à 13h, à 13h45.
On passe à la Ligue 2.
À la Ligue 2, avec le prochain match des Niortais qui recevront Pau dans un match important pour le classement. Mardi prochain, 21 décembre, l'occasion d'ailleurs de demander à Cédric Fuseau ce qu'il pense aujourd'hui de la première partie de saison des Chamois Niortais.
Bon, la première partie de saison, elle est plutôt bonne parce qu'on les retrouve sur la première moitié de tableau. On se rend compte que c'est une équipe qui peut accrocher toutes les équipes de tête. Et puis après, en termes de régularité, elle peut aussi de temps en temps passer à côté des matchs qui sur le papier se paraissent peut-être un peu plus faciles. Donc, mais c'est plutôt une bonne surprise de les voir sur cette partie de classement.
Et on passe au championnat de National 3 en Nouvelle-Aquitaine, Patrice. Avec le match nul de Bayonne et Anglette 1-1, la victoire du Stade Bordelais sur l'Esch Cap-Ferré 2-1, et puis Bressuire qui se déplaçait à Libourne et qui est défait de justesse 1-0. Et nous sommes avec Xavier Bonneau. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, défaite de justesse, défaite regrettable sans doute, mais un peu d'espoir quand même.
Bah oui. Après, c'est vrai que depuis un mois et demi, deux mois, à l'image des deux derniers matchs, là, on a joué le deuxième et le troisième, où voilà, on fait un match nul contre le Stade Bordelais, et puis là, contre le troisième Libourne, on perd 1-0. Alors c'est vrai, le contenu a été bon. Après, voilà, on a manqué d'efficacité un peu offensif pour pouvoir espérer mieux. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a du mieux, il y a de l'espoir. Mais bon, voilà, il va falloir régénérer tout ça et puis repartir du bon pied sur la nouvelle année après.
Alors justement, vous avez eu aussi pas mal de blessés qui vous ont handicapé, des compositions d'équipes qui changeaient chaque week-end. Comment voyez-vous maintenant l'avenir, et notamment à travers la reprise? Est-ce que les blessés vont reprendre? Est-ce qu'il va y avoir un effectif plus important pour justement assurer ce qui paraît être la possibilité pour le FCB d'être dans le milieu de tableau à la fin de saison?
Oui, on risque de retrouver, enfin, on espère retrouver tout le monde après cette coupure. Donc normalement, c'est vrai que à l'image Il y a Mathieu Delors qu'on a pratiquement pas eu de la saison, donc je pense qu'il risque de revenir d'ici deux semaines. Donc voilà, c'est vrai qu'on va avoir un effectif un peu plus étoffé, on espère. On espère que voilà, qu'on aura la chance d'être épargné maintenant par les blessures. Voilà, pour essayer voilà, de qu'on se batte avec toutes nos armes. Mais voilà, je le dis, je répète, ça permet aussi de voir des jeunes. Donc on a vu des jeunes à l'image d'un Théo Breton ou d'un Enzo Barrera. Voilà, ça prend du temps aussi, mais voilà, ils ont cumulé du temps de jeu et c'est de mieux en mieux. Donc voilà, on espère être plus compétitif sur cette deuxième partie de saison, mais voilà, il faut croire à ce groupe là et puis on va essayer d'avancer et puis essayer de se maintenir, ce qui sera le plus important.
Merci Xavier, on va vous souhaiter de bonnes fêtes, de bien relâcher puis de retrouver la motivation et vous savez la donner à l'ensemble de l'équipe pour la deuxième partie de saison. Merci.
Merci à vous, bonne fête à vous aussi.
Merci beaucoup Xavier Benoît, l'entraîneur du FCB, toujours dans ce championnat de National 3 de Nouvelle-Aquitaine. À noter la victoire du stade Bordelais face à Lège Cap-Ferré sur le score de 2 buts à 1. On passe Jean au championnat de National 3 Pays de la Loire.
Pays de la Loire avec le match nul hier soir de Chaland à Changé, 2 buts à 2. Le match La Roche-sur-Yon, Le Poiré a bien sûr été reporté puisque La Roche-sur-Yon est en Coupe de France. Vertoux a battu son mur 3 buts à 1. Match nul entre Fontenay et Sablé 0-0. Et puis belle victoire de la Châtaigneraie à Sautron 4 buts à 2. Et enfin, Pouzauges s'est incliné à domicile face à Laval 2 buts à 3. Justement, nous avons Cédric Fuseau avec nous ce matin. Cédric, malgré quand même une première mi-temps assez très 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 bonne, un pénalty à la dernière minute, donc défaite dure quand même à avaler ce matin.
Oui, dure sur la forme, parce que effectivement on fait une très bonne première mi-temps, on ouvre le score logiquement, on se fait égaliser sur un premier coup de pied arrêté sur un corner, donc ça met en avant les axes d'amélioration et de progression qu'on peut avoir, parce qu'on perd un peu en concentration. Malgré tout ça, on arrive à repasser devant juste avant la mi-temps, donc 2-1, un score plutôt logique sur la première période, parce qu'on a été physiquement et tactiquement plutôt bien et on les a vraiment gênés. Une équipe qui a l'habitude en face d'avoir le ballon et d'imposer le rythme, là sur la première mi-temps c'était un peu le plan de jeu de les contrarier sur ce domaine-là. Et puis en deuxième mi-temps on a fait un bon premier quart d'heure là jusqu'à l'heure de jeu où on a été capable d'enchaîner les courses et de les maintenir dans leur camp. Et puis on a senti que sur la dernière demi-heure on a inconsciemment reculé un petit peu, on se fait de nouveau égaliser sur un but un peu casquette, un cafouillage et un but contre notre camp sur une situation encore au départ arrêtée, donc ça met encore en avant cette dominante là du jeu. Et puis voilà, 92 13 ou 14 je sais plus, un penalty qui leur donne la victoire et qui nous fait basculer sur une série un peu compliquée là sur cette fin de période où on a enchaîné 3 matchs nuls et maintenant 2 défaites. Voilà, ça vient équilibrer un très bon début de saison avec pas mal de victoires, mais ça laisse un petit goût amer par rapport aux efforts qui sont faits, parce que voilà, on perd des points sur 3 fois à domicile là dans les arrêts de jeu, 2 fois sur penalty, une fois sur corner, donc c'est un peu frustrant, oui.
Première partie de saison quand même assez bien réussie. Vous reprenez quand maintenant à la fois l'entraînement et puis la compétition?
Alors là on va couper 15 jours comme on le disait avec Xavier, comme tu le disais avec Xavier à l'instant, c'est voilà, il y a une fatigue physique mais une fatigue mentale aussi. On a repris depuis le mois de juin après une coupure certes de 8 mois, mais les garçons sont pas forcément habitués à avoir des périodes aussi longues de travail. Donc là on va couper 15 jours complètement jusqu'au lundi 3 janvier sans programme particulier. Je veux vraiment qu'ils se ressourcent et qu'ils profitent un peu de leur famille à côté, et puis après derrière on bascule sur 15 jours de préparation pour le prochain déplacement qui est à Sablé, Sablé sur Sarthe. Donc oui, sur la première partie de saison on nous aurait dit au mois d'août qu'on allait être quatrième à la trêve hivernale, on l'aurait pas forcément cru. On se retrouve devant des équipes qui sont probablement plus armées que nous, comme Sablé, comme Le Poiré, comme Chaland, comme la réserve du Mans, donc il faut capitaliser sur cet ensemble de début de saison, parce que pas juste mettre en avant la dernière période, parce qu'on a eu peut-être un peu plus de réussite sur la période du mois de septembre, octobre, et puis là un petit peu moins sur le mois de décembre. Maintenant on dit toujours sur une saison ça ça s'équilibre. Mais faut pas non plus oublier voilà les petits détails qui font que ça tourne pas dans notre sens. Il y a des choses à corriger. Il faut qu'on travaille encore un peu plus. On a un groupe qui est vraiment à l'écoute, très jeune, qui pour la plupart découvre ce niveau depuis 3 ans maintenant. Voilà, les paliers se passent petit à petit, donc il faut continuer à avancer et puis essayer de gagner en régularité, ce qui est pas forcément facile à ce niveau-là.
Et cet après-midi, donc pour terminer cette journée de National 3 en Pays de Loire, Saint-Philbert de Grandlieu accueillera justement la réserve du Mans.
On passe au championnat de Régional 1 avec un déplacement de Noyaux-Biers hier à Guéret. Les Bocquins se sont inclinés sur le score de 2-1. Olivier Cousseau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct dans ce Sport Matin Dimanche. Entraîneur de Noyaux-Biers, l'analyse, votre analyse de cette rencontre, Olivier.
On est un petit peu frustré par rapport au résultat d'hier soir, parce que on a fait un très bon match hier soir avec une équipe, nous on avait une équipe remaniée, hein, par rapport au match contre Buxerolles, on avait 5 joueurs titulaires qui étaient absents hier pour des raisons professionnelles et puis suspendus ou blessures. Donc on est parti avec une équipe très très jeune à Guéret face à un des favoris du groupe. Et on a bien, on a fait un très 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 bon match où on a ouvert le score au bout de la 20e minute à peu près. Et on a été présent, on était bien en place, on a respecté les consignes. Le souci c'est qu'on a pris 2 buts assez rapidement. On a pris 2 buts, allez, en 2-3 minutes. Ils sont revenus au score et puis nous, je pensais qu'on allait flancher et puis non, on a réussi à se remobiliser. J'avais un peu peur, comme elle était assez jeune l'équipe, et quand on fait l'analyse du match de total, on a quand même les meilleures occasions du match. On a au moins 3 occasions franches avec leur gardien sort deux gros arrêts, surtout une en deuxième mi-temps et à la fin on met une tête sur la barre dans les arrêts de jeu. Ce qui est dommage, c'est que les joueurs étaient très très déçus hier soir, parce que je pense qu'on pouvait revenir avec le 2-2 là-bas. Alors même si la maîtrise technique, tout ça, c'est Guéret qui l'avait, mais nous on était bien en place, on laissait pas d'espace, ils ont été obligés d'allonger à chaque fois et on était présents dans la gestion de la profondeur. Maintenant je pense que si on continue comme ça, ça va porter ses fruits. Maintenant nous on est notre objectif c'est de maintenir le plus rapidement possible. Pareil, on va avoir des matchs importants dès la reprise, parce que nous on va recommencer dès le 9 janvier en jouant le championnat, on va y chier, qui est un des concurrents directs pour le maintien. On va pas avoir beaucoup de repos, on va laisser juste une semaine de repos la semaine prochaine et on va rattaquer les entraînements entre nous et les premiers de l'an pour qu'on soit opérationnel le match le 9 janvier. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'efforts, c'est pour ça qu'en ce moment on est en effectif, on est un peu limité. Mais il faut faire avec. Moi j'ai été satisfait des petits jeunes qui sont venus avec moi. On a joué avec des joueurs qui avaient 17 ans hier soir et 20 ans derrière. On avait 5-6 joueurs qui étaient comme ça. Un gardien qui était notre gardien, qui était normalement pas notre gardien titulaire, qui a fait un très bon match hier soir aussi. Donc je suis satisfait parce qu'ils ont répondu présent et ça prouve que le groupe, on peut se passer certains des fois de joueurs cadres. Mais bon, sur des matchs comme ça, des fois c'est compliqué pour face à des équipes qui sont un petit peu plus expérimentées. C'est ce qui nous a manqué hier, c'est l'expérience. Je pense que si on avait un peu plus d'expérience, je pense qu'on aurait pu éviter ces 2 buts qu'on a pris en 3 minutes. Et on aurait pu revenir avec le match nul de Guéret.
En tout cas, vous portez un regard plutôt positif de ce début de saison.
Alors oui, c'est vrai qu'on a eu un début de saison un peu compliqué avec l'élimination Coupe de France et puis les 2 défaites en championnat. Après, on a enchaîné 6 matchs sans défaite. Et là, c'était un peu plus compliqué sur la fin parce que effectivement, on a rencontré que des équipes qui jouent le haut de tableau. Hein, je prends La Rochelle, Thouars ou Fethia, et puis Guéret hier. Mais on a gagné Buxerolles la semaine dernière, qui était un match important à gagner chez nous. Qui est aussi une équipe qui devrait être dans la deuxième partie de tableau, mais qu'on a fait un bon match chez nous. Et puis, mais on est satisfait. On a pris les points qu'il fallait prendre contre les équipes qui jouent le maintien avec nous. Il aurait fallu prendre des points, aller piocher des points bonus, comme on dit, face à des équipes de tête. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qui est dommage, à part Choret, où on a gagné chez nous, mais autrement, il aurait fallu qu'on prenne des points, comme par exemple, quoi, hier soir, ça aurait été le petit bonus avant les fêtes. Quoi.
Olivier Cousseau, entraîneur de Noyaux-Biers, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans ce Sport Matin Dimanche. Très bonne journée, bonne fête de fin d'année. À bientôt, au revoir. D'autres résultats, Jean?
Oui, des résultats, donc, en, alors, d'abord, les résultats de Nouvelle-Aquitaine. C'est ce matin, j'ai eu un peu de mal, c'est le front, alors. C'est bon. Avec le match nul entre Royan-Vaux et Fétia. Donc, un petit mot, Cédric, sur Noyers-Aubiers, sur Thouars aussi, qui fait un bon début de championnat, sur les deux Sévriens, les locaux, là.
Ouais, c'est ça, sur une poule qui est assez relevée, avec pas mal d'équipes qui ont des ambitions affichées, comme La Rochelle notamment et d'autres écuries. Thouars, je suis pas surpris parce qu'on les avait joués nous en préparation au mois d'août et on avait été mis en difficulté sur ce match-là avec deux équipes, enfin un effectif assez large avec deux équipes régionales là qui tournent bien sur ce début de saison. Donc le travail qui est effectué porte ses fruits. Et puis Nueil, c'est pareil, ils sont sur un cycle là depuis quelques années qui est intéressant. Avec ils se mettent à niveau chaque année, ils haussent leur niveau pour répondre aux exigences de cet terrain. Donc oui, surpris oui et non, parce que on les retrouve à un classement qui vient justifier un petit peu la structuration et les efforts qui sont faits dans ces deux clubs.
Et puis cet après-midi, donc pour terminer cette poule de Régional 1 en Nouvelle-Aquitaine, derby Niortais, puisque Niort-Saint-Florent, qui est en difficulté, qui vient de changer d'entraîneur, accueille Niort-Saint-Liguer, qui a aussi changé d'entraîneur il y a quelques semaines. Donc match important pour les deux équipes niortaises. Et en Régional 2, dans la poule A, en Nouvelle-Aquitaine, hier soir, les Montcoutantais se sont inclinés à l'Étoile Maritime 3-1. Cet après-midi, l'équipe du Talus reçoit Beaumont, tandis qu'en départemental 1, toujours des matchs en retard, l'équipe réserve de Noyers-Aubiers accueillera Vrines. Ce sera tout pour le football.
Merci d'être sur Colline, deuxième partie de Sport Matin Dimanche. On passe au basket après le football. Peut-être avez-vous suivi le match en direct hier soir ici même. Pour le compte du championnat de Betclic Elite, Cholet recevait un autre prétendant au maintien, à savoir Fos-sur-Mer. Le match avait mal débuté pour CB qui se prenait à 9-0 au bout de 3 minutes de jeu. Puis les deux équipes ont fait du mano à mano tout au long de la rencontre. À une minute et demie du coup de sifflet final, Cholet avait 6 points d'avance et semblait tenir un succès primordial face à un concurrent direct. Mais au lieu de cela, eh bien CB s'est à nouveau incliné 79-83 malgré de belles prestations, notamment des jeunes formés au club. Écoutez la colère de l'entraîneur de Cholet Basket, Laurent Villa.
Ça me rend hors de moi. On a merdé sur la fin. C'est bien dommage par rapport à ce championnat. On va dire que le premier tiers a été manqué. Charge à nous de faire le boulot pour les deux deuxièmes tiers du championnat avec les renforts qu'on est en train de préparer au niveau de l'équipe. Et le plus important pour nous, quand on a aussi notre projet de dire voilà, nous on veut faire jouer les jeunes, quand je vois le match d'Hugo Robineau qui est l'homme, on va dire, qui sur lequel on s'appuie, qui va en pénétration, qui donne la fougue, qui donne l'envie et qui pousse toute son équipe, je me dis qu'on n'est pas, on va dire, dans les sur la mauvaise piste par rapport à ce que l'on se doit de faire vis-à-vis de Cholet Basket avec son académie qu'on met en première ligne. Il a montré l'envie, il a été hyper suivi et supporté par, encore une fois je vous le dis, les 4000 personnes. On a perdu quelques possessions sur la fin, mais véritablement les gars se sont donnés. J'en aurais voulu bien sûr qu'ils fassent jusqu'au bout, mais alors je suis pas quelqu'un de béni oui-oui ou d'optimiste à tout va, hein. Bien sûr que la situation comptable que l'on a aujourd'hui, elle est vraiment très très comment je vais dire grave par rapport au classement, mais il y a quand même quelques données qui sont sur le terrain. Et puis quand on a nos Américains qui sont pas au rendez-vous et que ce sont nos jeunes joueurs français qui font le taf, on se dit qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la fougue, on l'a sur certains. Maintenant il va falloir que ceux sur qui on a misé au départ, va falloir véritablement qu'ils mouillent le maillot. Et puis encore une fois je vous dis là maintenant, je vous donne rendez-vous début janvier, parce que là on a deux matchs qui sont importantissimes.
Pour la cinquième fois consécutivement, Cholet Basket s'incline en championnat à l'issue d'une semaine désastreuse, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et on peut dire que le club est un peu au fond du gouffre. Le jeune meneur Hugo Robineau, issu de l'Académie Gauthier, était pour le moins dépité à l'issue de la rencontre hier soir.
On est dans une période pas facile et perdre ce match qu'on a entre guillemets bataillé depuis une longue semaine, tout le match pour le gagner, perdre sur ça, c'est nous qui leur donnons les limites. C'est très frustrant et j'ai pas vraiment d'explication à ça. Dans le vestiaire, c'est... On sent la tension, on sent le... ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas facile. Et bon, faut rebondir. Et je vous cache pas que dans le vestiaire, il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est une période difficile. Le bilan pour l'instant est, on peut dire, assez décevant par rapport aux attentes. Mais pour moi, la saison, elle est encore longue et on peut vite se reprendre. Et moi, j'ai confiance en tous les gars qui sont dans cette équipe et j'ai encore confiance en nous, mais je sais qu'on va rebondir et ce sera d'autant mieux quand on le fera tous ensemble.
Avec cette nouvelle défaite hier soir, Cholet est à ce jour dernier du classement du championnat élite. L'opération sauvetage est plus que jamais d'actualité, Jean.
Sauvetage, oui, d'actualité, notamment que la sérénité revienne autour du club. Cédric, la relation Cédric Usoric basket, tu suis les Cholet, bien entendu, les clubs locaux, l'intérêt pour le basket?
Oui, je suis. Après, les emplois du temps et bon voilà, ça fait que on joue en même temps ou quand il y a des matchs en semaine, on est sur des séances nous aussi, donc on n'a pas forcément la possibilité de voir les choses en direct. Mais ouais, après je regarde un petit peu les résultats. C'est vrai que la situation actuelle est pas simple. Après, c'est une notion d'équilibre hein, entre les joueurs, les dirigeants, les élus locaux et voilà, si tout le monde va pas dans le même sens, inconsciemment ça se ressent. Après, voilà, on fait un sport collectif, il faut que tout le monde aille dans le même sens et c'est vrai que quand bon là on entend le coach qui stigmatise certains joueurs, voilà, c'est qu'il y a des choses qui vont pas ou des choses sont non dites, donc voilà, mais il y a pas de, c'est un club historique et je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour rebondir, donc on va les suivre et les encourager pour qu'ils se sauvent.
La suite en Ligue féminine, Patrice?
Exactement. En Ligue féminine, hier, Villeneuve-d'Ascq s'est imposé face à Angers 77 à 72. Victoire de La Roche-sur-Yon sur le parquet de Landerneau 86 à 75. En pré-national masculine, à retenir la défaite de Bressuire de la réserve face à Saint-Rogatien 72 à 84. Et puis, victoire du Stade Rochelet qui recevait l'AS Niort 66 à 64. À suivre aujourd'hui le match entre Choré et l'équipe du Stade Poitevin.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Sport Matin dimanche suite, on passe au handball, Jean.
Oui, programme très réduit en handball, seul un match en amical des Celloises contre Rennes qui se sont inclinés 23 à 26. Rappelons que les Celloises visent le maintien en LFH et sont en préparation pour la deuxième partie de saison. Cédric, le hand, c'est aussi les Montcoutantaises. Tu suis un petit peu l'évolution de ce club qui se maintient en National 1?
Oui, je suis aussi. Alors c'est vrai que c'est des clubs, des structures, enfin des associations qui se structurent bien depuis quelques années. Et je pense que sur le territoire, c'est important d'avoir ce type d'association qui tire tout le monde vers le haut, que ce soit le hand sur Montcoutant ou le foot, le basket, le tennis sur Bressuire. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces structures-là et ça fait parler du territoire et de la région. Donc c'est vrai que ce que fait Montcoutant actuellement, c'est très intéressant et tant mieux pour le territoire.
Après le handball, un petit mot de volleyball pour vous indiquer que cet après-midi, Niort joue à domicile face à Nantes en National 3 masculine. Déplacement de Niort à Fonsorbe. Voilà pour ce mot de volleyball, on passe au rugby, Jean.
Rugby, et hier en Coupe d'Europe, les Rochelais n'ont pas pu se déplacer à Bath compte tenu des conditions sanitaires, donc le match de Coupe d'Europe est reporté. Cet après-midi, les Toircais reçoivent le VS Nantes. Et en Régional 3, le Cragnor accueille Loudun. Et les Mélois sont opposés à Tonnet-Charente.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
de la course à pied ce week-end avec tout d'abord la 33e édition de la corrida de Courlay hier, absente du calendrier l'an passé pour les raisons que vous imaginez bien. L'épreuve a donc fait son grand retour hier après-midi, mais sans les courses ouvertes aux enfants en préambule du départ des 5 et 10 km. Avec la mobilisation de quelques 120 bénévoles, l'organisation a de nouveau été sans faille, comme prévu. Les favoris se sont imposés, à savoir Cyril Bosch de l'Uestoir chez les hommes, Flavie Brémo de l'Entente des Mauges chez les féminines, tous deux inscrivant de nouveau leur nom au palmarès. Gilles Gobin, l'une des chevilles ouvrières de cette corrida de Courlay.
On a quand même réussi à avoir pratiquement 500 coureurs. Et puis, quand j'ai entendu les commentaires à l'arrivée, tout le monde avait l'air d'être satisfait. Donc, pour nous, c'est gagné. Quoi,
ouais, c'est gagné parce qu'il y avait quand même un peu de crainte.
Problème sanitaire du moment, c'est quand même, c'est quand même compliqué. On ne sait jamais jusqu'où on doit aller pour la protection, tout ça. On a essayé de faire de notre mieux. Je pense que ça a été relativement réussi.
On aurait presque pu s'attendre à avoir plus d'inscrits sur place.
C'est vrai. Bon, c'est vrai que les gens ont hésité dans un premier temps à s'inscrire sur le site. Et puis, au dernier moment, j'espérais un peu plus d'inscriptions sur place. On a eu 90 inscriptions sur place. Mais bon, on aurait pu espérer 150. Mais bon, voilà. L'important, c'est que tout le monde était satisfait. Tout s'est bien passé. C'était notre volonté, surtout.
Ouais, il y avait Alain Liot qui le soulignait en tant que compétiteur. Il y a quand même une sacrée machine à mettre en place. Hein. Organiser la corrida de Courlay, c'est pas simple.
C'est pas simple. Mais bon, on a une bonne équipe de bénévoles. On va pas se plaindre parce que le jour J, tout le monde est là. Et puis vraiment, tout le monde y met de la bonne volonté. Et puis un grand merci justement aux bénévoles et puis aux coureurs forcément. Mais heureusement, toute l'équipe de bénévoles était présente comme d'habitude. Donc ça, c'est encourageant pour la suite.
Gilles Gobin, l'un des éléments phares de cette corrida de Courlay, au micro-colline hier de Vincent Nori, Gilles Gobin, que je salue au passage. Un petit commentaire par rapport à cette rencontre, à cette corrida.
33e corrida, c'est quelque chose qui s'est mis dans la pérennité. C'est remarquable quand même comme animation de course très populaire avec quand même des athlètes de bon niveau. Cyril Bosch, un excellent coureur de 10 000 mètres. Comment tu ressens là, ce genre de d'organisations qui sont utiles pour le territoire?
C'est ouvert à tout le monde, donc c'est une manifestation qui est agréable sur cette période de fête en plus là. Et puis comme le disait dans l'interview là, il faut faire repartir les choses, même si c'est compliqué. Il faut absolument que ces manifestations là aient de nouveaux lieux et soient présentes parce que voilà, dans cette période compliquée pour tout le monde, ça fait partie des axes pour redynamiser tout ça, et c'est important pour le territoire aussi.
Autre course à pied ce week-end avec le cross de Bordeaux-Sèvres, un cross-country organisé par le stade Niortais Athlétisme, et on peut le dire que cette fois, c'est enfin la bonne. Faute d'épreuves de cette nature depuis plusieurs années dans le sud de notre département, l'association avait décidé de se lancer en 2019. Tout avait été organisé, mais de fortes précipitations la veille avaient rendu le parcours impraticable, d'où une annulation, peu importe, on repart pour 2020, mais là, la Covid est passée par là, donc nouvelle annulation. 2021 est donc la bonne année avec enfin l'organisation de cette manifestation attendue par beaucoup. Écoutez, Eric Guillon, l'un des vice-présidents du stade Niortais Athlétisme, chargé de l'organisation de ce cross-country.
Il y a les parcours classiques qui sont constitués par les faits de course, par catégorie d'âge, hein, de poussin à senior et master. En fonction de tes catégories d'âge, la distance est différente. Et les difficultés également sont un petit peu différentes, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc on échelonne de 11h15 jusqu'à 16h toutes les épreuves. C'est agrémenté cette année, enfin sur cette première, en fait, de trois courses open qui devraient être sympathiques. Tout ce qui est accéléré. Donc, course open, c'est d'abord la première, c'est celle ouverte aux familles. Famille, c'est constitué d'un parent ou des deux parents, accompagné d'un ou deux enfants. Donc, c'est juste un petit parcours ludique de 600 mètres. Hein. Et ensuite, elle sera suivie de la course exhibition élite. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant, enfin qui est très peu organisé en France. Une course à l'australienne. En fait, à chaque boucle, le dernier concurrent est éliminé. Donc aujourd'hui, ils sont 11 au départ, et donc ça devrait être en principe le coup du spectacle pour cette journée. J'ai convié quelques coureurs de renom. j'ai l'honneur, enfin il y a l'honneur de Hugo et fait partie de des coureurs. Et j'ai également Jonathan Billot qui va Cyril Gauche, également de l'Estoire, et puis une délégation de Nice La Rochelle, de Nice Athlétisme, donc du club de La Rochelle, qui vient compléter l'ensemble de ses concurrents sur cette course élite.
La première véritable édition de ce cross-country à Échiré, c'est donc ce dimanche. Première course à 11h15 tout à l'heure. Le lancement de la course élite sera donné à 14h. Retour Jean sur la cour et date courée avec un petit clin d'œil.
Un petit clin d'œil aussi, parce que Patrice a eu son propre clin d'œil, donc je vais avoir le bien.
N'hésitez pas.
Puisqu'on a vu dans les résultats ce matin, la première place sur 5 km du jeune minime, Antoine Cézière, qui est de Conflans-Sainte-Honorine, en 16-32 avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur le second. Et Antoine est tout simplement le fils de Christelle Fuseau, qui était une athlète renommée du SBAC dans les années 80, 90 et 2000, et de Bertrand, son mari, et figure actuellement parmi les meilleurs minimes français. Rappelons quand même que Christelle Fuseau, c'est 2 titres de champion de France cadette et junior de cross-country, c'est des sélections en équipe de France, c'est des records de France du 10 000 mètres junior, 10 000 mètres espoir, et surtout une 7e place au championnat du monde junior du 10 000 mètres à Plovdiv en 1990, c'est ce qui n'a pas empêché d'avoir aussi un doctorat de physique. Un petit clin d'œil donc à Christelle qui est en vacances chez ses parents actuellement à Chapelle-Gaudin.
On parle, Jean, avec Cédric Fuseau maintenant, de l'école de sport.
École des sports, Cédric, donc c'est une grande partie de ta vie aussi, école de sport qui a débuté à Cerizay dans les années 2000, après des réflexions qui avaient été conduites par notamment des dirigeants du CO Cerizay, du comité directeur du CO Cerizay, qui sont encore là, je pense à Jean-Noël Sorin, le président, à Claude Simonet, à des responsables du basket également, qui étaient dans cette dynamique-là, appuyés, je connaissais bien le maire de l'époque, par la municipalité, qui a mis en place cette initiative, qui avait été réfléchie longtemps, puisque j'en étais le témoin aussi, avec un personnage important de la vie sportive de Cerizay, qui était Eugène Garnier, qui cherchait comment éduquer sportivement les jeunes de la ville. Donc aujourd'hui, comment tu vis l'historique de cette école de sport, son développement, puisque il y a eu un premier développement avec l'étendue sur le territoire de Delta Sèvres-Argent. Aujourd'hui, il y a un développement qui se dessine sur l'agglomération du Bocage-Bressuret. Tu es au cœur du sujet, donc comment va l'école de sport, quelle est aujourd'hui sa physionomie et surtout quels sont ses projets?
Ben, l'école de sport a évolué, oui, sur ces 20 dernières saisons. C'était les 20 ans de l'association l'année dernière. Il y a deux développements. Il y a le développement géographique, comme tu disais, parti initialement de Cerizay, avec le constat que les enfants n'accédaient pas tous au sport et que derrière, une fois qu'ils allaient au sport, il y avait ce phénomène de zapping sportif qui était très fréquent. Donc l'idée, c'était vraiment de les faire venir un petit peu en amont sur la pratique, de les orienter, de les aider à faire un choix pérenne après, par la suite, pour une fois qu'ils s'inscrivent sur un club et sur une association, qu'ils restent sur celui-ci. Donc confrontés à des problématiques d'accueil en fin des années 2000, la structure s'est développée sur le territoire de Delta Sèvres-Argent avec une ouverture de pôle sur Mauléon et Noilly-les-Aubiers. Politiquement, quand la comité d'agglomération du Bocage-Bressuret s'est créée en 2014, on a accompagné deux nouvelles structures sur Argentonnet et sur Montcoutan qui depuis ont fusionné avec nous, donc pour aujourd'hui arriver sur un maillage du territoire avec 5 pôles à Cerizay, Mauléon, Noilly-les-Aubiers, Argentonnet et puis Montcoutan-sur-Sèvre. Donc ça, c'est le premier développement géographique. Après il y a le développement des activités, donc l'idée de départ, c'est d'accueillir les enfants de 4 à 9 ans sur de la découverte sportive. On a beaucoup d'enfants de 4 ans et de 5 ans, un petit peu moins sur 7, 8 et 9. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas sur de la concurrence avec les autres clubs, et c'est ce qui est un petit peu compliqué à comprendre au départ. On est vraiment sur une association tremplin qui fait venir les enfants à la pratique et qui les oriente après derrière. Donc il y a des passerelles à créer, des partenariats à mettre en place avec tout le monde pour que tout le monde s'y retrouve. C'est pas parce que l'enfant fait une année ou deux années d'école des sports, qu'il va être moins performant derrière sur le sport qu'il va choisir. On peut prendre l'exemple de Sébastien Michaud qui est passé par l'école des sports et qui aujourd'hui est champion de France et fait beau jour du SBAC. On a d'autres sportifs aussi qui se retrouvent à jouer sur des clubs de National 3, de National 2 et qui sont passés aussi par cette structure-là. Donc au fur et à mesure de l'avancée du projet, à partir du moment où on n'est pas sur de la compétition, on n'est pas sur de la performance, on a accueilli de plus en plus d'enfants en situation de handicap. On se permet d'individualiser un petit peu l'accueil de ces enfants-là. Et puis on s'est dit en 2016, voilà, pourquoi pas accentuer un petit peu cette ouverture-là. Donc on a des projets spécifiques qui sont mis en place et qui continuent à se mettre en place autour du handicap. Le terme que j'aime bien, c'est l'inclusion, et réussir à faire pratiquer en même temps des enfants dits valides et d'autres en situation de handicap. Alors, le handicap peut être moteur, sensoriel, mental ou psychique, mais voilà, le sport peut être un vecteur d'inclusion et d'intégration pour tous ces publics-là. Donc on accentue actuellement vraiment cette chose-là. Il y a des classes, une classe Ulysse qui est accompagnée sur Noël-les-Aubiers. Il y a un projet là qui est en train de se mettre en place pour des choses un peu plus importantes sur le territoire, notamment essayer de créer une école des sports spécifique handi pour des enfants qui, une fois que le sport qu'ils aient choisi bascule sur de la compétition, se retrouvent très vite limités et puis confrontés à un problème. Donc l'idée, c'est de leur faire pratiquer quand même cette activité, malgré le fait que sur la compétition entre guillemets normale, c'est pas possible. Et puis la dernière chose, le dernier volet qui se développe actuellement, c'est le sport santé en direction des personnes âgées en perte d'autonomie, où là en 2018, un premier groupe sur la commune du Pin a été accompagné, donc on était 17 au début, et au jour d'aujourd'hui on a quasiment 150 personnes sur le territoire de l'agglo qui sont accompagnées sur des communes comme Combran, Le Pin, Cerizay, Mauléon, Saint-Aubin-de-Bobigny, Boimé, Largeas aussi. Donc ce projet prend de l'ampleur et tout ce qui a été fait, tout ce qui a été réfléchi, c'est des opérations, des actions qui répondent à une demande. Donc l'idée sur les années à venir, c'est de continuer à écouter un petit peu là les demandes qui peuvent émerger du secteur, que ça soit géographiquement sur le secteur de Bressuire ou que ça soit sur d'autres activités comme le sport entreprise, comme le sport sur prescription médicale. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en cours et l'idée c'est d'aller dans tous les domaines sur lesquels on peut aller, mais de façon réfléchie et puis adaptée.
Et les statistiques actuellement, le nombre d'adhérents, de personnes touchées, nombre d'éducateurs, vous accueillez aussi beaucoup de stagiaires, il y a tout un système d'animation autour aussi de l'encadrement, du projet pédagogique. On en est où dans l'école de sport actuellement ?
Alors actuellement on a 470 licenciés sur la structure, plus une centaine, quand je parlais des personnes âgées, plus une centaine de pratiquants qui sont accompagnés sur des prestations de services à côté. Donc on est un peu plus de 550 personnes qui sont touchées par nos actions au jour d'aujourd'hui. Alors effectivement c'est une organisation à mettre en place et des choses à caler. Donc on est 16 au jour d'aujourd'hui, 16 éducateurs diplômés d'État, 2 salariés à temps plein avec Lydie Ferreira qui m'accompagne pour gérer tout ça. Et puis l'accompagnement tous les ans de personnes et de stagiaires qui sont en formation avec 2 structures principales qui sont l'IRSS à Cholet ou le CREPS de Poitiers. Donc là cette année on a 3 personnes qui sont sur un cursus de formation là sur des BPJEPS, des brevets professionnels pour rentrer et on l'espère être de futurs collègues après par la suite. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation à mettre en place. Et puis j'ai pas parlé tout à l'heure des nouveautés, mais il y a également l'activité piscine là, qui s'est ouverte depuis cette rentrée, où suite à la période Covid, l'idée c'était de relancer un petit peu cette activité, de remettre les enfants dans les bassins pour aller sur l'apprentissage de la nage après par la suite avec l'agglomération du Bocage-Bressuret. Donc c'est une activité qui fonctionne très bien et l'idée c'est de continuer à développer tout ça tout en mesurant et en gérant au mieux la structuration.
Et la pédagogie spécifique reste bien la découverte du geste sportif, la sensibilisation à l'activité sportive et qui touche maintenant plusieurs générations.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la découverte. Nous, tout ce qui est perfectionnement et apprentissage après plus poussé, on le laisse au club. On est vraiment sur l'idée de faire découvrir les choses. Ce qu'il y a à noter, c'est aussi les chiffres qui justifient un petit peu ce projet, cette envie, c'est que tous les ans, on a 2/3 de nos adhérents qui arrêtent. On garde 1/3 de nos adhérents. Et sur ces 2/3 qui arrêtent, depuis 10 ans, on fait des études pour savoir ce que deviennent les enfants. Et depuis 10 ans, 90% de ces enfants qui arrêtent sont insérés sur des clubs locaux. Donc, ce qui montre bien que l'objet principal de la structure est réussi. Et puis derrière, effectivement, maintenant, on a des projets intergénérationnels où on arrive à toucher l'enfant plus le grand-parent, voire l'arrière-grand-parent sur la même structure. Donc, c'est des clins d'œil qui sont plutôt sympathiques.
Alors, il reste sur le territoire du Bocage-Bressuire, surtout le Grand-Bressuire, a décidé à rejoindre l'école de sport. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des contacts, notamment avec Madame Ménard, maire de Bressuire, et puis Alain Robin, chargé des sports? Il y a toujours eu cette crainte, effectivement, exprimée d'ailleurs à plusieurs reprises, de la concurrence entre l'école de sport et puis les écoles spécifiques des différents clubs, alors que il a été prouvé que c'est plutôt complémentaire.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pas à convaincre. On est, comme je disais tout à l'heure, sur une démarche où on répond aux besoins. La réflexion est ouverte. Concrètement, pas encore mis sur le papier, mais la réflexion reste ouverte. Je pense que c'est une dynamique de territoire, comme on a pu avoir sur Montcoutan en septembre dernier, où le fait de fusionner, de se mettre en place sur ce territoire, on est passé de 40 adhérents la saison dernière à 120 aujourd'hui. Sur Montcoutan, donc, et c'est pas pour autant que les clubs ont moins d'enfants dans leurs écoles spécifiques. Donc l'idée sur Bressuire, c'est que le cheminement voilà, ça avance et se fasse, la réflexion est présente. Je pense que c'est des choses qui doivent être réfléchies par tous les intervenants, que ça soit les associations sportives, que ça soit les élus, que ça soit d'autres parties prenantes du projet. Il faut que les choses soient réfléchies, soit posé. C'est vrai qu'une fois que tout est présenté et qu'on rebondit sur les chiffres et sur ce qui se fait sur les autres secteurs du territoire, ben voilà, naturellement après les choses se mettront en place si tout le monde est partant. Mais il faut pas imposer les choses, et l'idée c'est de pas arriver en disant ben voilà, ça marche ici donc ça marchera chez vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des spécificités sur chaque territoire, mais c'est vrai que tous les clubs, enfin la majeure partie des clubs sont confrontés à des problématiques d'accueil, notamment chez les tout petits. Donc à 4 ans, à 5 ans, comme je disais tout à l'heure, les enfants sont de passage une seule année, voire deux saisons pour certains. C'est compatible, c'est complètement compatible. Et puis derrière, en plus, les enfants qui adhèrent sur les clubs locaux ont déjà eu une année, voire deux années dans une structure sportive, ont déjà des repères en termes de cadre, en termes de respect, de valeur. Et on gagne un petit peu de temps parce que on reste sur la partie sur la motricité générale, la motricité globale, que ça soit sur le football que je connais bien ou sur les autres sports collectifs ou même sur l'athlétisme. À 4 ans, on n'est pas sur le geste sportif encore, on reste sur des choses très générales. Donc l'idée de passer un petit peu en amont, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc, on verra sur les saisons, sur l'année à venir, comment le projet avance. Mais l'idée, c'est de travailler conjointement et pas d'imposer les choses dans un sens ou dans l'autre, parce que ce sera le meilleur moyen de ne pas y arriver.